بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم Chers frères en islam, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous accepte ce soir pour participer à une assemblée de ilm, une assemblée. On va essayer d'apprendre un peu plus le Coran. On va essayer de comprendre un peu plus le Coran avec pour objectif, avec comme intention sincère, d'essayer de mettre en application les enseignements qu'on va essayer nous-mêmes de véhiculer, de transmettre, les enseignements qu'Allah Azza wa Jal a révélés au prophète alayhi salatu wa salam à travers ces versets. Avant donc les vacances du mois de janvier, on avait bien entamé, je crois, la moitié à peu près de la sourate Al-Qalam. Oui, c'est ça, à peu près la moitié de la sourate Al-Qalam. Et on était arrivé donc au verset où Allah Azza wa Jal donne une dernière description de ces personnes qui critiquaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste pour rappel, un rapide récapitulatif, la sourate Al-Qalam commence par des encouragements de notre Seigneur Azza wa Jal à l'attention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car on est où? On est à Mecca. Et à Mecca, les polythéistes n'arrêtaient pas de mentir, n'arrêtaient pas d'inventer des histoires ou de profaner des accusations contre le prophète alayhi salatu wa salam. Et parmi ces accusations mensongères, ils disaient que le prophète était possédé. Et Allah Azza wa Jal affirma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Et Allah Azza wa Jal, au fur et à mesure que la sourate Al-Qalam, elle progresse, Allah Azza wa Jal révèle les versets qui encouragent le prophète alayhi salatu wa salam, qui vont lui faire oublier tout ce que les Mécois sont en train de dire. Et une des leçons qu'on avait retenues à travers cette première partie, c'est que même si autour de toi, il y a une quantité de personnes qui n'arrêtent pas de prononcer des paroles qui te blessent, qui touchent ta religion, qui touchent ta foi, qui touche ta relation avec Allah, mais sache que si ton Seigneur de le Coran a révélé des versets qui ont pour but de te soutenir, de t'encourager, de te montrer que ça c'est la sunnah d'Allah, c'est comme ça que ça se passe à toutes les époques, avec tous les prophètes, il y a toujours eu des personnes qui ont critiqué, il y a des personnes qui étaient, on va dire, d'une certaine façon, les armées du diable, shayatin al-ins ou al-jinn, des armées du shaytan parmi les êtres humains, pour propager le mal, mais sache que Allah a toujours créé ce genre de personnes et ce genre de situation a été vécu par tous les prophètes, par tous les hommes pieux et les versets du Coran, les encouragements et les promesses d'Allah Azza wa Jal doivent normalement être suffisants pour te faire oublier tout ce que tu entends. Et Allah seul sait comment est-ce que, à notre époque, nous vivons dans une tempête médiatique plus forte que Carlos, une tempête médiatique où il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on entende des paroles extrêmement qui nous attristent, toujours en rapport avec la religion, avec l'islam, quand ce ne sont pas des critiques de journalistes ou d'autres catégories de personnes, c'est parfois des agissements de certaines personnes qui s'autoproclament musulmans et qui vont essayer de commettre des attentats et d'essayer de faire des choses, mais tout ça, ça nous touche. Et quand il y a ce genre d'exaction qui est accomplie, immédiatement après, il y a des commentaires, il y a parfois des décisions qui sont prises. Bref, on vit dans un monde où le croyant est extrêmement éprouvé à chaque instant. Principalement depuis ces dernières années, on doit être capable de se montrer patient, persévérant, de ne pas être attristé par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, et nous devons être capables de nous connecter avec les paroles d'Allah Azza wa Jal. Et parmi ces encouragements, il y a deux types d'encouragements. Il y a l'encouragement qui nous vient à travers le vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme de la sourate Al-Qalam, et puis l'autre
type d'encouragement, ce sont les promesses d'Allah. Et une de ces promesses, c'est ce qu'on va voir dans un instant, inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im, le verset 34, les pieux auront auprès de leur Seigneur les jardins de délices. Si une personne a l'habitude de lire le Coran, de lire la traduction, d'entendre les versets, il se dit tout simplement, et c'est une réaction très simpliste, que ben encore c'est un verset de plus qui annonce que les musulmans iront au paradis. Ça, c'est une croyance basique. Ceux qui croient en Allah iront au paradis. Mais on a besoin de comprendre ce verset avec notre cœur. Et non pas le lire de façon répétitive sans vraiment comprendre son sens. C'est-à-dire, comprendre ce verset avec le cœur, c'est réaliser que c'est là une promesse d'Allah. Quand Allah Azza wa Jal dit le Coran, Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. 'Inda rabbihim jannatin na'im, que les pieux auront auprès d'Allah Azza wa Jal, donc ce jardin de délices. On doit réaliser que malgré tout ce qu'on vit, malgré nos manquements, là, on a parlé des épreuves, mais on parle également de nos faiblesses, malgré nos erreurs, malgré nos péchés. Celui qui n'a pas commis un péché depuis ce matin, qu'il se lève. Impossible. Même les sahaba, ils arrivent aux sahaba parfois de commettre des erreurs, mais ce qui distingue un mu'min, un croyant, c'est lorsqu'il accomplit un péché, immédiatement il revient vers Allah. Parce que nous ne sommes pas des malaïka, nous ne sommes pas des anges, mais nous devons essayer. Nous devons faire le maximum d'efforts pour nous contrôler. Et lorsqu'on est conscient qu'on a dépassé les limites et qu'on a désobéi à Allah, comment est-ce qu'on désobéit à Allah? De deux façons. Soit par rapport à un manquement face à une obligation. D'accord? Imaginez que je suis chez moi à l'heure de lors du adhan de Maghrib et que je ne viens pas à la masjid. C'est un manquement. Donc, si je me rends compte qu'il y a un manquement, je dois réunir les conditions du tawbah, avoir des remords, regrettés, demander pardon à Allah Azza wa Jalla et faire l'intention de ne plus recommencer les mêmes erreurs. Ou alors l'autre façon de désobéir à Allah Azza wa Jalla, c'est ce qu'on connaît un peu plus, c'est l'accomplissement d'un péché volontairement. Et là, même façon pour demander pardon à Allah Azza wa Jalla. Donc, comme on l'a dit, même les sahaba, même les gens les plus pieux, il leur arrivait de commettre des erreurs. Mais donc, malgré nos erreurs, malgré le contexte difficile, malgré les épreuves, malgré le fait que la pratique de la religion devient de plus en plus complexe à la fin des temps, quand le prophète avait donné cet exemple qu'il viendra une époque où pratiquer sa religion, c'est-à-dire rester ferme dans la pratique, sera aussi difficile que de tenir une braise ardente au creux de sa main. Malgré ce contexte, Allah, Azza wa Jal, dans sa clémence, nous fait la promesse. Inna lil muttaqina. Ceux qui ont la piété, les croyants qui avaient la crainte d'Allah. Et ça concerne toutes les générations. Depuis les sahaba jusqu'à la fin des temps. Et Allah nous jugera, Inch'Allah, en fonction de notre intention. On a espoir en fonction de nos manquements, du contexte qui parfois provoque ces manquements et provoque ces faiblesses. Donc ce qui est encourageant de ce verset, là où on doit dépasser une lecture, je veux dire un peu répétitive, et là on doit aller vers la contemplation. Ibrahim, qui est un artiste, il sait c'est quoi la contemplation. Entre une personne qui regarde un Picasso et quelqu'un d'autre qui regarde une peinture qui a été faite à l'usine, d'accord? Si la personne voit les deux peintures et il ne voit aucune différence, il y a un problème, d'accord? Contempler, c'est être capable de voir toute la beauté, l'effort, le génie et la subtilité qu'il y a à travers l'œuvre, d'accord? Et quand on parle de contempler, c'est mets-toi dans le contexte, tu es parmi ces personnes ressuscitées le jour de Qiyama. Et tu vois des personnes, des voisins, des proches, des gens que tu connaissais, des gens que tu ne connais pas, qui sont conduits massivement vers le Jahannam, parce que leur vie était remplie de manquements. Et tu vois qu'Allah Azza wa Jal t'a choisi pour entrer dans le paradis. Essaye de te mettre dans cette situation où cette scène va te motiver pour faire partie des muttaqin, les pieux qui ont la promesse d'Allah, qui vont accéder au Jannah. Donc voilà notre encouragement, malgré un contexte difficile, trouver le réconfort à travers la parole d'Allah, à travers les promesses d'Allah. Donc la première partie de Al-Qalam, c'est c'est-à-dire Muhammad n'est pas par la grâce de ton Seigneur un possédé, et Allah va au contraire affirmer que « wa innaka la'ala » Khuluqin, azim. Et tu essaies d'une moralité imminente. Allah atteste qu'il n'y a pas meilleur homme dans l'histoire de l'humanité que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand le prophète reçoit cette attestation de la part d'Allah, sans le moindre doute, ça lui fait oublier tout ce que les Quraysh sont en train de propager comme fausse nouvelle, comme mensonge à son propos. La deuxième partie, enfin, pas forcément une deuxième partie, mais autre verset clé articulateur, Wallahu a'lam, de la sourate Al-Qalam, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, c'est ton Seigneur, inna rabbaka huwa a'lamu. C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin, et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. Là aussi, c'est un encouragement. Parce que même si le monde se réunit pour te dire que ta pratique de la religion est une pratique archaïque, et que ça ne correspond pas aux valeurs du, entre guillemets, du monde moderne, ainsi de suite, et que tu ne trouves aucune voie qui va te conforter dans la pratique de la sunna, ne cherche aucun soutien des hommes, réalise que Allah Azza wa Jalla a révélé que c'est ton Seigneur qui connaît mieux. Inna rabbaka huwa a'lamu. C'est Allah qui connaît qui est dans le droit chemin et qui est égaré. Et toi, si tu suis les ordres d'Allah, et tu suis la sunna de Al-Habib sallallahu alayhi wa sallam, tu fais partie des gens qui sont de le droit chemin. Car le prophète a dit, je vous ai laissé deux choses, restez accrochés, vous ne serez jamais égarés, kitabullahi wa sunnati, le livre d'Allah et ma sunna. Donc, deuxième réconfort pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également pour nous. Et ensuite, dans la troisième partie, dans le découpage qu'on a fait, maintenant Allah Azza wa Jal va mettre en avant les erreurs de ces mouchriquins, les défauts. Eux, ils essayaient d'inventer des choses sur le prophète, alors que un jour avant qu'il ne devienne prophète, on l'appelait encore Al-Amin, l'homme de confiance, celui qui est honnête, celui qui a le meilleur comportement de tous les Mécois, de toutes les personnes de Mecca, le noble Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, descendant des plus hautes lignées des Banu Hashim, des Quraysh. Du jour au lendemain, ils vont le traiter de sorcier, de menteur, et d'une personne qui sème la discorde, qui essaie de s'emparer de Dieu, qui fait ça, qu'il a des fins politiques. Il veut peut-être devenir le Amir, le chef de Makkah, ainsi de suite. Donc, toutes ces accusations qui, bien sûr, font très mal au prophète, alayhi salatu wassalam. Et Allah Azza wa Jal démontre que tout ce qu'il dit, c'est faux, et qu'au contraire, tu es le meilleur des hommes. Et maintenant, Allah Azza wa Jal va révéler quelles sont les erreurs de ces personnes. Allah va révéler tout ce qui est sale dans leur cœur. Des choses que les gens ne savent peut-être pas. Et lorsque eux, ils vont entendre la révélation d'Allah leur concernant, ils vont se rendre compte qu'Allah sait exactement ce qu'il y a de leur cœur. Quels sont ces points qui sont cités? Grands jureurs, des personnes qui mentent et qui jurent par Allah pour cautionner leur mensonge. Méprisables, au mauvais comportement. Grands diffamateurs et grands colporteurs de médisance. Et on avait parlé du riba, de la calomnie. On avait parlé également de la médisance du namima, des personnes qui sèment la discorde en rapportant des nouvelles d'une famille à l'autre ou d'individu à l'autre. D'accord? Et on avait cité également les hadiths qui mettent en garde contre le namima, le fait de colporter et de faire la médisance. Grand empêcheur de bien, transgresseur, grand pécheur. Voilà trois défauts encore. Grand empêcheur de bien, manna'il lil khair. Chaque fois qu'il y a l'occasion de faire quelque chose de bien, il ne fait pas et il empêche les gens également de faire. Donc voilà une des khususiyah, un des défauts, une des spécificités de ces, soit de ces hypocrites, ou alors on pourrait dire plutôt de ces ennemis, de ceux qui ont la haine contre tout ce qui est bon. Transgresseurs, c'est-à-dire les premières personnes à aller vers le mal, vers le haram. Lorsqu'il y a une petite porte du haram qui s'ouvre à eux, ils sont les premiers à rentrer. Et lorsqu'il y a une porte de bien qui leur permet enfin d'accomplir quelque chose de bien, ils ferment la porte et ils empêchent les gens également d'accomplir les bonnes actions. Alors que le moumine doit agir de façon contraire. Donc, comme on avait dit en conclusion, avant les vacances, attention à ne pas retrouver un de ces défauts dans notre vie, et à nous d'aller à l'encontre également des défauts qui étaient présents chez les mouchriquins, chez les Quraysh, ne jamais jurer par Allah pour quelque chose qui n'a pas d'importance, ne jamais mentir, ne pas avoir un comportement méprisable Ne pas aller dans la diffamation, dans la calomnie, dans la médisance, dans le fait de colporter de mauvaises nouvelles ou de choses qui vont attrister les gens ou créer la zizanie d'une façon générale. Le croyant, il met en application un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, lequel dit « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khayran aw » ou qu'il se taise. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. C'est-à-dire, si tu veux atteindre le summum de la foi, en développant la foi en Allah et la foi sur le akhira, le jugement dernier, si tu parles, fais en sorte que ce soit pour dire quelque chose de bien. Et si tu n'as rien de bien à dire, il est mieux de se taire. Le mu'min, il met en application ce hadith, et de cette façon, il ne sera pas comme la personne qui va aller dans la diffamation, dans le fait de colporter des nouvelles ou des rumeurs, ou la médisance. Le mu'min doit faire en sorte également, en analysant les défauts des mouchriquins de Quraysh, de ne pas être cette personne qui empêche les gens d'accomplir de bonnes actions, ou qui lui-même s'éloigne. On voit quelqu'un qui est dans la nécessité et dit « Non, non, moi je n'aide pas. » On a la possibilité de se rendre à la salat. « Non, moi je n'ai pas envie de prier, etc. » La personne qui se ferme lui-même les portes des bonnes œuvres et qui empêche les gens également de faire ce qui est bien. Vous êtes avec quelqu'un qui dit « Bon, moi je vais à la masjid, je vais prier. » Quel intérêt? Ça sert à quoi? C'est des mouvements répétitifs, c'est pas le plus important, et ainsi de suite. Et tu n'accomplis pas de bonnes actions et tu fermes la porte pour les autres aussi. Grand pécheur, qu'Allah nous protège également d'arriver à un... Vous savez, ça c'est des étapes ça dans la relation, c'est pas le tafsir du jour, mais dans la relation du croyant avec son nafs, avec sa hawa, avec ses passions, avec ses pulsions. Là il y a différentes catégories. Il y a celui qui désobéit très rarement à Allah Azza wa Jal, mais quand il le fait, c'est par inadvertance. C'est qu'il n'a pas fait exprès. Et là on a grand espoir que certaines actions comme l'accomplissement des prières, l'accomplissement des ablutions, une Jum'a à l'autre, une Umra à l'autre, ben ces actions-là, ces bonnes œuvres, Inch'Allah, vont laver tous ces péchés. On a cet espoir. Après, il y a une autre catégorie, la personne qui intentionnellement accomplit des péchés. Et là aussi, il y a des péchés occasionnels, et puis le pire, ce serait Al-Israr, le fait d'accomplir régulièrement des péchés, et quelqu'un qui s'habitue à faire des péchés, il y a deux choses. Soit c'est quelqu'un qui est raafil, qui est insouciant, et le croyant ne peut pas être insouciant, ou c'est la personne qui a oublié Allah Azza wa Jal. Parce que quand on peut répéter un même péché tous les jours, ça veut dire que à un moment donné, tu ne ressens plus le regard d'Allah sur toi. C'est-à-dire que tu as oublié ton Seigneur. Et ça, c'est grave. Ça, c'est une maladie spirituelle. Que d'oublier le regard d'Allah sur nous, d'oublier Allah d'une façon générale. C'est le contraire de la taqwa. La taqwa, c'est dans toutes les situations de ta vie, tu as le muraqabatullah, la pensée d'Allah, et tu fais en sorte de ne jamais mettre un pied dans le haram, de ne jamais prononcer une parole qui déplairait à Allah, parce que tu sais, tu es conscient qu'Allah est là, qu'Allah est au-dessus de toi, qu'Allah te voit, qu'Allah t'entend. Vous voyez la différence entre la taqwa et la personne qui est dans le israr ala al-ma'asiyah, sans dire encore le gros mot fasiq, mais jusqu'à devenir un pécheur endurci. Si on répète un péché tout le temps, régulièrement, on ne parle pas d'inadvertance ou accidentellement, si on le répète consciemment, volontairement, c'est-à-dire sans être jahil, c'est pas qu'on ne savait pas que c'était haram, on a tous compris, on parle d'une situation où l'homme sait pertinemment que c'est pas bien, mais il le fait régulièrement, c'est que cette personne-là, à un moment donné, ne pense plus à Allah Azza wa Jal, il a oublié la relation qu'il a avec Allah et le devoir qu'il a envers Allah Azza wa Jal. Donc ne pas être ce grand pécheur. Au cœur dur, le mu'min ne doit jamais avoir le cœur dur. On retrouve le verset, parce que la traduction, ça va. Mais quand on a le verset, subhanallah, c'est autre chose. Il y a toute la beauté à travers la parole d'Allah Azza wa Jal. Manna'in lil khayri mu'tadin athim. Utullim ba'da dhalika zanim. Donc, au cœur dur. Ce qui distinguait ces mouchriquines, c'est que le shirk avait créé, on va dire, une carapace, quelque chose de nauséabond autour de leur cœur, qui faisait qu'ils ne pouvaient plus percevoir la vérité. Et en plus du shirk, il y avait l'orgueil et la fierté, et le fait de vouloir préserver des acquis de la société. C'est la plupart de ces Quraysh, ils savaient que la mission du prophète sallam était la vraie mission. Ils savaient que son message était vrai. Et ils savaient que ces idoles, eux-mêmes, les avaient sculptées ou leurs parents. Ils savaient que la... que cela ne leur apportait strictement rien sur le plan spirituel, mais le fait d'être des gardiens de Lat, Manat, de Hubal et ainsi de suite, ça leur donnait un makan, un rang auprès de toute la péninsule arabe. Et c'est la fierté, l'orgueil qui fait qu'ils ne voulaient pas écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À nous de faire attention de ne pas avoir un cœur dur et de ne jamais être habité par la fierté ou l'orgueil ou rechercher autre chose que le contentement d'Allah. Ni la fierté de la famille, ni une question d'honneur qu'on essaie de perpétuer. Notre relation avec Allah doit être basée autour de l'amour et la crainte d'Allah et rien d'autre. Le but, ce n'est pas de faire voir quoi que ce soit aux gens. Le but, c'est de ne pas, de dégager une certaine, de donner une apparence, aucunement. C'est vraiment pour Allah, Azza wa Jal. Et parmi les versets qu'Allah avait révélés à propos du caractère du prophète alayhi salat wa salam, le fait qu'il était rahmatan lil alamin, dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit: وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Que si le Prophète sallam était, le sens du verset, s'il était dur avec les sahaba ne l'auraient pas écouté. Et quand Allah Azza wa Jalla demande à Moussa alayhi salam d'aller voir qui ça? Pharaon, et il demande à Moussa et à Haroun d'aller voir Pharaon, فَقُولَ لَهُ قَوْلَ الْلَيِّنَ. De dire à Pharaon des paroles, traduction approximative, des paroles douces. C'est-à-dire de parler gentiment, poliment avec Pharaon. De considérer, de lui donner la considération, de ne pas manquer de respect. Et ça, c'est une règle essentielle à retenir. Le musulman, mine dans sa relation avec les autres, il doit dégager vraiment cette spiritualité et ce comportement prophétique qu'il y a dans notre religion. Hada. Alors, le verset qui nous intéresse, là où on s'était arrêté, c'était le verset 14, ce qu'on a lu tout à l'heure. Et un des versets qui nous encourage également, on avait dit que c'est ton Seigneur qui connaît mieux, mais également face à tubsiru wa yubsirun. Tu verras et ils verront. Chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, en rapport avec ce qu'on vient de dire, contexte islamophobe ou raciste ou et ainsi de suite, et qu'on a l'impression d'avoir été humilié, soit en écoutant un débat, soit directement, on nous protège d'être humilié directement, mais c'est souvent à travers ce qu'on écoute, ce qu'on voit, ce qu'on lit, dites, lisez ce verset, face à tout bousir wa yubsirun. Et ça doit nous encourager. Tu verras, en ce sens, et ils verront. C'est-à-dire que toi, mu'min, tu verras la vérité au jour de Qiyam. Tu verras le haqq. Tu crois en Allah, tu as iman bil ghaib, même si le monde entier se ligue contre toi parce que tu crois en Allah, mais sois patient. Face à tubsiru, un jour, comme dit en créole, un jour il appelle demain. Et ce demain-là, il est cool, c'est là-haut. C'est le demain éternel. Le demain qui n'a pas de fin. Le jour de Qiyamah, face à tubsiru, tu vas voir la promesse d'Allah se réaliser point par point et plus même que ce qu'Allah t'avait promis. Wa yubsirun. Eux aussi, ils vont voir. Voir et goûter. Goûter dans le sens créole. D'accord? Ils vont voir et ils vont goûter. Ou en allemand, qu'on dit « allez goûter ». Mais ce n'est pas la même chose. Mais « allez goûter ». D'accord? C'est ce qu'on a retenu des cours d'allemand. Désolé. Enlevez trois. Donc, « fasatub siru wa yubsirun », ils verront eux aussi. Tout ce qu'ils ont osé dire, tout ce qu'ils ont osé faire. Allah musta'an. J'expliquais aux élèves lycéens, les grands, qu'on parle un peu d'actualité, de ce qui se passe en Syrie. Lorsqu'on voit tout ce que Allah, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait à les tortures infligées aux prisonniers, et bien sûr, où est on ne dit pas le nom des organismes, mais où est l'humanité? D'accord? Je ne dis pas la couleur des casques. Où est l'humanité? Où sont les valeurs? Où sont les droits de l'homme et du citoyen? Où est l'héritage du siècle des Lumières? Ce qui a fait la grandeur de notre pays. Ce qui fait que la France est reconnue comme étant un pays de penseurs, de philosophes, d'artistes. C'est l'héritage du siècle des Lumières. Cet humanisme qu'on n'a pas retrouvé ailleurs en Europe. C'est des gens exceptionnels. Où est cet héritage? Lorsqu'il s'agit d'un pays qui ne représente aucun intérêt, où il n'y a pas une goutte de pétrole, il n'y a rien à retirer, où il n'y a pas d'accord, où il n'y a pas non plus d'espoir d'avoir un accord où on va jouir de je ne sais quel gisement. Bref, je ne fais pas de politique. Et là, on est prêt à fermer les yeux sur tout ce qui se passe. Allah musta'an. Quand justement on voit ce genre d'événement et que des fois on peut se poser la question, mais comment, mais pourquoi est-ce possible? Ce sont des mu'mines, des croyants qui sont opprimés de cette façon. Et pensez également sur Suratul Buruj, qu'on rappelle à chaque fois. Comment est-ce que les gens étaient jetés dans des fosses où il y avait un feu ardent, hommes, femmes, vieillards, bébés, enfants, ils étaient brûlés vifs. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ. Uniquement parce qu'ils croyaient en Allah. Mais toutes ces personnes qui ont été opprimées, le jour de Qiyama, ils verront. يُبْصِرُونَ. Ils verront la promesse d'Allah. Et les oppresseurs, ils verront ce qu'Allah leur a réservé. On lisait un hadith il y a quelques... C'était hier ça ou avant-hier. Dans Riyad al-Salihin, un des commentaires. On parlait de la personne qui désobéit Allah Azza wa Jal. La personne à qui Allah a donné des responsabilités ou un pouvoir. Et que la personne agit contrairement à ce qu'Allah attend de lui. Mais il y a des fois Allah va le laisser. Allah va le laisser agir comme il veut. Jusqu'à ce que la personne pense qu'il est maître de ses actes. Et deuxièmement, qu'il n'y a pas de limite. Et troisièmement, qu'il n'y a personne au-dessus de lui. C'est ce que tous les tyrans font. Le mulk, la royauté qu'ils ont eue, c'est Allah qui leur a donné. C'est une épreuve pour eux. Et lorsqu'ils gèrent mal ce pouvoir qu'Allah leur a accordé, à un moment donné, ils ont l'impression qu'il n'y a personne au-dessus d'eux et que tout est permis. Et qu'ils vont étendre leur pouvoir au fur et à mesure qu'ils vont faire du mal aux gens. C'est ce que les tyrans font. Donc, dans ce genre de situation d'oppression et d'injustice, là également, pense que face à Tobosero, Wayobseron, et je vous assure que c'est suffisant pour trouver un réconfort. Mais il faut y croire seulement. Il faut y croire. Quand Allah a dit qu'ils verront, ben dans ton cœur, tu te dis vraiment, continue, tu verras un jour. Ne lui dis pas, hein. Suffisant pour être maintenant en prison ou fichier S+. D'accord? Ils verront. Mais ça, c'est en toi et Allah. Parce que c'est Allah qui a promis qu'ils verront. Ben, tu t'en remets à Allah. Allah dit qu'ils vont voir. Ben, ils verront. D'où le doua du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le doua ne me revient pas. Quand le Prophète faisait doua contre les ennemis, que Allah laisse, que le Prophète, pardon, laisse ses ennemis auprès d'Allah. C'est Allah qui gère. C'est Allah qui va faire ce qu'il veut de ces personnes-là. Ne t'affecte pas, même si tu es touché physiquement ou dans ton intégrité ou psychologiquement, sache que c'est Allah qui s'occupera des oppresseurs. Donc le verset donc d'aujourd'hui, le 14. Dernière description qu'on n'avait pas pu compléter apparemment avant les vacances. « An kana dha malin wa banin » Même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants. C'est-à-dire que ces personnes qui ne croient pas au prophète, ces personnes qui font du tort, ces personnes qui désobéissent à Allah Azza wa Jal, qui humilient Nabiullah alors qu'au fond de leur cœur, ils savent que c'est le prophète d'Allah. La dernière reproche qu'il leur est fait dans cette succession de versets, c'est Allah leur a accordé des bienfaits. Malgré ça, regardez comment ils agissent. « An kana dha malin wa banin » Même s'il est doté de richesses, la plupart de ces ennemis de l'islam avaient des bienfaits de la part d'Allah et avaient beaucoup d'enfants. Et chez les Arabes, c'était les deux plus grands bienfaits. Les biens, l'argent, la richesse et les enfants. C'était les meilleures des choses qu'un homme pouvait avoir. Et Allah leur avait accordé. Donc malgré ça, donc Allah Azza wa Jalla met en avant le fait qu'ils lui désobéissent alors qu'il leur a accordé tous ces bienfaits. Nous concernant, qu'est-ce qu'on retient? On retient que le croyant qui a reçu des bienfaits de la part d'Allah Azza wa Jal est encore plus redevable auprès de son Seigneur pour tous les bienfaits qu'Allah lui a accordés. Et si on devait compter les bienfaits, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُهَا, on ne pourrait pas compter. Et des fois on regarde une personne qui a une situation financière ou un niveau de vie, on va dire un peu plus confortable que le nôtre, et on est attristé. On se dit que j'aurais aimé être comme ça, ma situation elle est déplorable, ainsi de suite. Maintenant si tu vas rendre visite à quelqu'un qui est à l'hôpital. Wallahi, tu te rends compte que tu es dans un bienfait. J'étais à l'hôpital il y a 2 jours pour voir quelqu'un qui vient de subir une opération. Un grand bonhomme de 50 ans le voit pleurer sur un lit d'hôpital parce qu'il a mal. Il a mal, il souffre. Ben, ça te remet les idées en place. Hein. Ça te permet de réaliser que même si au quotidien on a des soucis, Parfois, il y a des choses qui ne vont pas bien. Ça ne marche pas comme on le souhaite dans la vie. Ça peut être sur le plan familial. Ça peut être dans les relations avec les enfants. Ça peut être sur le plan financier. Les fins du mois sont difficiles. Ça peut être sur le plan professionnel. Le travail ne nous convient pas ou les relations avec les collègues sont compliquées. Harcèlement moral. Bref, on a souvent des problèmes ou des petits problèmes de santé. Mais ce soir, quand tu dors, tu es chez toi. Quand tu dors ce soir, tu dors dans ton lit. Tu ne dors pas avec une perfusion. Tu veux manger quelque chose, tu as la possibilité de mastiquer, de manger. D'accord ? On amène un repas, beau repas pour la personne, ne peut pas manger. Déchire le cœur. Et la personne, il demande de préparer de la soupe, ou ce qu'on appelle les ananas saoudis, de lait saoudis, d'accord ? Des trucs comme ça. Des trucs que, regarde, même on n'a pas envie de manger, quoi. Parce que la personne est malade et réalise que toi, quand tu rentres chez toi, tu as envie de manger un sandwich, tu as envie de bref, ce que tu veux, mashallah. Et du coup, on réalise ce qu'Allah nous a accordé. Et donc, par rapport à ce verset, ce que nous, parce qu'à travers chaque verset, il y a un enseignement direct pour Nabil, pour Ishaq, pour Hudaïfa, pour Ibrahim, pour Jawad, pour tout le monde. Il y a un verset, il y a un enseignement direct pour nous. C'est ça la richesse du Coran. Quand Allah t'accorde des bienfaits, et Wallahi, nous avons tous des bienfaits. Le fait d'être là, c'est qu'on était capable de quitter sa maison, c'est qu'on peut marcher. On n'est pas paraplégique, on n'a pas besoin d'assistance d'une personne. Bref, on a la santé, on peut venir, même s'il y a d'autres problèmes. Mais as-siha, as-siha et al-farar, ces deux ni'amas sont là. As-siha, c'est la santé, et al-farar, c'est le temps. Tu as la possibilité de trouver un temps pour venir à la masjid, pour écouter une assemblée de ilm et ainsi de suite. Ce sont là déjà des bienfaits. Faculté physique, faculté mentale. Quand tu rentres chez toi, tu as un domicile. Il y a des gens qui, Allah Moustan, qui dorment dans la rue. Ils sont en métropole, mois de janvier, c'est déchirant de savoir que, je le dis tout le temps, mais c'est une réalité. Chaque fois qu'on y va, on se rend compte. Comment est-ce qu'on peut laisser des hommes dormir dans la rue en plein hiver en France au 21e siècle? Il fait tellement froid. Avec tous les vêtements qu'on porte, on est obligé de courir parfois, parce qu'on ne supporte pas ce froid. Des gens qui dorment là, qui restent. Allah Moustan. On a beaucoup encouragé, on a essayé d'encourager les personnes de participer au plan grand froid. Il y avait un plan grand froid en métropole. Donc là, il n'y a pas à regarder, on donne à des musulmans. Il n'y a pas à chercher ces croyants. Ça, c'est khalq min khalqillah. Ça, c'est créature d'Allah. Cet humanisme, cet amour universel pour les créatures d'Allah, ça doit être une qualité spécifique, intrinsèque au mu'min. Si tu ne l'as pas, c'est qu'il y a un problème de ta foi. C'est qu'il y a un problème de ta tête aussi. Parce qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Quand un homme avait donné, exemple décalé, c'est pour montrer l'extrême. Un homme avait vu un chien mourir de soif et qu'il est descendu dans un puits avec sa bottine, il a pris un peu d'eau, il lui a donné à boire. Cet homme accède au paradis par rapport à ça. Et le prophète m'a dit que à travers chaque créature d'Allah, il y a des récompenses obtenues. Chaque créature, le chien, on avait donné cet exemple une fois. La bave du chien touche tes vêtements, tu ne peux pas prier. La bave du chien touche un récipient, il faut le laver 7 fois. Tellement c'est un animal dont la bave est impure. Mais ce chien qui meurt de soif, tu lui donnes de l'eau, c'est une grande action qui est appréciée par Allah. Donc cette ouverture, ce insaniya, ce comportement, cette éthique, là ça doit être quelque chose qui est propre à chaque mu'min. Donc, pour revenir, si on a des bienfaits, avec les bienfaits qu'Allah nous a donnés, nous sommes encore plus redevables auprès d'Allah Azza wa Jal, nous avons encore plus de devoirs et on ne peut pas se permettre de désobéir délibérément à notre Seigneur. Quelle ingratitude qu'une personne qui ne se réveille pas pour la prière de Fajr. Alors qu'Allah lui a accordé la santé, Allah lui a accordé une maison, la possibilité de dormir sur un lit, mashallah, avec les conditions de confort qui sont réunies, et que la personne jouit d'un bienfait, et il ne se prosterne pas devant Allah Azza wa Jalla. Quelle ingratitude! Il a rêvé d'Alik. Personne qui utilise ses yeux, qu'Allah nous pardonne tous et nous permet d'avancer, utilise ses yeux pour regarder ce qui n'est pas bien, utilise ses oreilles pour écouter ce qui n'est pas bien. Donc on doit réaliser que au-delà de la notion de péché, on ne va pas trop s'étaler, mais la notion de péché, c'est pas uniquement tu ne le fais pas parce que c'est haram, tu ne le fais pas parce que c'est haram, mais qui a dit que c'est haram? Qui a décrété? C'est Allah. Tu ne le fais pas parce que tu t'es soumis à Allah. Tu es un musulman, tu es soumis à Allah, tu t'es engagé à respecter une vie pour Allah, une façon de vivre pour Allah Azza wa Jal. Et également, tu ne vas pas vers ce péché parce que tu réalises tout ce qu'Allah t'a donné. Et tout ce qu'Allah t'a donné, ne l'utilise pas dans le ma'ansiya, dans le mauvais chemin. Qu'Allah nous permet d'avancer dans le droit chemin. An kana dha mali wa banin, donc autre reproche, idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin, quand nos versets lui sont récités, il dit des contes d'anciens, des cœurs qui sont fermés, des cœurs hermétiques, des cœurs qui ne veulent pas voir la vérité, des cœurs qui ne veulent pas contempler. Le Coran, Allah Azza wa Jal fait des reproches. Afala yatadabbaruna al-Quran. C'est pas afala yaqrauna, afala yatluna al-Quran. C'est pas qu'Allah reproche, ne lisent-ils pas le Coran? Non, ne méditent-ils pas sur le Coran? Quand on parle de la contemplation, il y a une différence entre regarder et contempler. Le verset du Coran, tu le lis, c'est bien, c'est une bonne action. Pour chaque lettre, il y a des récompenses. Mais le contempler, c'est quoi? C'est méditer sur le sens profond. Creuser, chercher ce qu'Allah a délivré, le message qu'Allah a délivré à travers chaque mot pour améliorer ta vie. À travers ces quelques versets déjà, c'est comme une ordonnance. On doit réaliser ce qu'on n'a pas le droit de faire. À travers le mauvais comportement des mouchriquins, tous les défauts qu'ils avaient, c'est pas juste que tu te rends compte, ah, il faisait ça, je ne dois pas faire la même chose. Et je dois développer les qualités contraires, c'est-à-dire tout ce qui est positif. Parce que tout ce qui a été cité, ce sont des péchés qui sont détestés par Allah Azza wa Jal. Attention à ne pas développer un seul de ces péchés, à commencer par la médisance, ou le fait de calomnier, ou le fait de rapporter des nouvelles qui vont semer discorde dans un couple ou entre des membres d'une même famille. Donc, l'autre reproche qui est fait à ces personnes, lorsqu'ils entendent les versets, qu'est-ce qu'ils osent dire? Des contes d'anciens. Ils ne voulaient pas accepter le message de notre prophète, alayhi salatu wassalam, ils ne voulaient pas reconnaître que c'est dérévélé par Allah Azza wa Jalla. On a parfois l'impression que c'est uniquement à notre époque que les gens cogitent, que les gens ont un esprit un peu cartésien et qu'ils réfléchissent et qu'ils parfois ils ne veulent pas accepter certains messages ou certains textes qui sont en rapport avec l'invisible, qui n'arrivent pas à décrypter par leur intelligence. Même à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, c'est inversé, les gens disaient des contes anciens, sartirul awwalin. Donc nous, ce qu'on doit retenir, bien sûr on n'est pas dans une situation où on va réfuter, on va refuser un verset du Coran, mais on doit faire très attention que jamais on ne s'oppose à un point de la religion parce qu'on ne comprend pas. Si tu ne comprends pas, renseigne-toi auprès de ceux qui ont la science. Si malgré ça tu n'arrives pas à l'intégrer, tu t'en remets à Allah. Ça, c'est la révélation d'Allah. Je n'arrive peut-être pas à comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette interdiction, mais si c'est Allah qui l'a décrété, c'est la décision d'Allah. Je connais des gens, des personnes qui, musulmans de naissance, quand on parle du châle, du fait de se couvrir, et ainsi de suite, trouvent ça parfaitement ridicule. Il y a parfois des termes qui sont prononcés, ça frise le couf. Ça frise le couf. Et qu'Allah ait pitié de ces personnes. Donc on doit faire attention de ne pas s'opposer à n'importe quel point du dîn, parce qu'on risque de développer un comportement identique ou qui se rapproche du mouchriquine. Lorsque le prophète le récitait les versets, qu'est-ce qu'il disait? Des contes d'anciens. Alors que le mu'min, il doit croire immédiatement ce qu'il y a de le Coran. Il doit boire la révélation. Quand le prophète alayhi salatu wassalam revient du voyage nocturne, Abu Bakr al-Siddiq, qui a reçu le titre de, je veux dire, Siddiq, il a cru immédiatement au voyage du prophète. Alors que les mouchriquins, les croyants, bien sûr, ils rigolaient. Ils disaient que nous, c'est des mois et des mois, on prend avec les chameaux ou les chevaux, monture pour aller vers la Palestine et revenir. Et votre compagnon, il dit en une soirée, il est parti, il est revenu, et ainsi de suite. Abu Bakr al-Siddiq dit, Wallahi l'Azim, je crois à tout ce que Mohammed vient de nous dire, je crois à son récit, je crois au voyage nocturne et je crois à quelque chose de plus fort encore, qui dépasse le voyage nocturne, c'est qu'il reçoit régulièrement la révélation de la part d'Allah Azza wa Jal. Le mu'min croit immédiatement ce qui est révélé, même s'il n'arrive pas à le comprendre. Être capable de réaliser que nous ne sommes pas parfaits, qu'on ne peut pas tout comprendre, et que ce qu'Allah a décrété qui est bon pour nous, c'est là qu'il y a la vérité. Hada. Ida tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. On va conclure avec le verset sanasimuhu ala al-khurtum. On va s'arrêter avec ce verset, le verset 16. Nous le marquerons sur le nez. Sanasimuhu ala al-khurtum. Ibn Jarir rahman dit sanubayyinu amrahu bayanan wadhiha hatta ya'rifuna ولا يخفى عليهم كما الى اخر jusqu'à la fin de la citation de Ibn Jarir. Il dit que ça nous bayine le jour de Qiyama, le jour de Qiyama, leurs erreurs seront visibles de tous. Leurs erreurs, leurs mensonges, leur comportement sera visible. Tout comme on marque, comme quand on marque un animal sur le museau ou on marque au fer chaud, c'est-à-dire que ces personnes auront un signe distinctif. Et le jour de Qiyama, il n'y a plus d'hypocrites, il n'y a plus de munafiqine. Les gens qui sont dans le droit chemin, on les voit. Les gens qui étaient dans le faux, on les voit et on voit exactement quel est le résultat de leur parcours. Inna sa'yakum la shatta. Dans ce dunya, chacun fait son parcours. Et la finalité, l'aboutissement, le résultat, c'est là-haut. C'est le jour de Qiyama où on voit vraiment là la vérité. Et dans d'autres tafsirs de Al-Aoufi, ainsi de suite, que Simatu ahli nar ya'ni nusayyidu wajhahu yawm al-Qiyama. C'est-à-dire que le jour de Qiyama, leur visage, ça c'est un autre tafsir qui rejoint un autre verset, yawm tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, que le jour de Qiyama, les kuffars, ceux qui ont désobéi Allah Azza wa Jal, leur visage sera noirci, obscurci le jour de Qiyama. Alors que les croyants, yawm tabyaddu wujuh, le visage des croyants sera brillant, lumineux. Allah Azza wa Jal va mettre un nour sur le visage des croyants. C'est-à-dire que le jour de Qiyama, on distingue parfaitement les gens du droit chemin et les gens du mauvais chemin. Ça aussi, c'est un encouragement. On vit dans un monde où il n'y a pas de adl, il n'y a pas de justice. Et notre justice, on l'attend là-haut, avec Malik Yawmiddin. Donc, le jour de Qiyama, sanasimuhu ala al-qultum, il y aura le signe distinctif chez ces personnes. Et d'une façon générale, les croyants auront une distinction et les personnes qui ont désobéi Allah Azza wa Jal également auront une distinction. Qu'Allah nous accorde les qualités des croyants pieux, qu'Allah nous protège de développer un des défauts qui se trouvait chez ces mouchriquins de Quraysh, et qu'Allah nous permet de développer bil'aks les qualités qui sont aimées, qu'Allah apprécie, et qu'Allah nous protège de développer, comme on l'a dit, la moindre des défauts qui se rapprochent des mouchriquins de Quraysh et des ennemis d'Allah Azza wa Jal de façon générale, et qu'Allah nous permette de nous rapprocher de lui à travers ces versets. Wa tawfiqillah billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, alhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullah.